Court-circuit. Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Court-circuit, le programme écolo mais rigolo de Radio B, propulsé par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations et des gens qui ont envie de faire des choses en lien avec l'écologie et le Lab 01. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Alex.
Bonjour.
Isabelle.
Salut.
Anne-Sophie.
Hello.
Et je suis Mathilde. Alors l'émission du jour sera consacrée aux énergies vertes. Alors commençons par une petite définition. Une énergie est dite verte lorsqu'elle est à la fois propre et renouvelable, c'est-à-dire qu'elle provient de sources durables et qu'elle n'émet pas ou très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire sur le papier, c'est parfait. Eh bien, nous avons sélectionné plusieurs sources d'énergie verte pour voir si elles remplissent toutes leurs promesses. Commençons avec Alex.
Spoiler, non.
Oh, t'as tout gâché. Oh.
Quels sont les impacts environnementaux des éoliennes ? J'entends souvent de fausses idées qui circulent à propos des éoliennes. Comme les éoliennes sont-elles une source d'énergie bas carbone ? Eh bien oui. En prenant toute sa vie de la fabrication au démontage, l'ADEME le dit, avec 12,7 g de CO2 par kWh, comparé à 800 g pour le charbon, on est vraiment bas carbone. Ou les éoliennes sont-elles recyclables ? Eh bien oui, à plus de 90%. Seules les pales composées de résine et de fibres de verre et fibres carbone ne sont pas facilement recyclables, pour l'instant. Éventuellement, elles peuvent servir de combustible, mais guère mieux. Pour rappel, l'enfouissement des pales d'éoliennes est strictement interdit en Europe. Les éoliennes nuisent-elles fortement la biodiversité ? Eh bien, c'est à surveiller, parce que selon la Ligue de la protection des oiseaux, en 2017, montre que la mortalité des oiseaux due aux éoliennes est relativement faible lorsque les projets évitent les secteurs présentant de forts enjeux avifaune. Et la législation va dans ce sens. Donc il faut vraiment surveiller là où elles sont implantées, mais sinon il n'y a pas plus d'impact. Les éoliennes utilisent-elles beaucoup de terres rares ? Non, seules les éoliennes offshore, 6% des éoliennes terrestres, nécessitent l'utilisation de terres rares dans les aimants permanents. Et les exploitants ont-ils l'obligation de démanteler les éoliennes en fin de vie ? Oui. Dès lors que les éoliennes arrivent en fin de vie, l'exploitant a l'obligation de toutes les démanteler. Même le socle en béton, qui fait à peu près entre 600 et 800 tonnes de béton, est enlevé et valorisé ou recyclé à 100%.
Mais, voilà. Mais quand même, sur ces questions d'éoliennes, c'est un sujet qui peut cristalliser pas mal de gens. Et notamment, il y a quand même pas mal de débats sur ces questions d'impact sur la biodiversité. Et puis, il y a aussi des gens pour qui ça a un impact vraiment sur le paysage. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très mal vécu par
les gens. Il y a tout un travail de concertation avec les habitants locaux à faire en amont. Si c'est pas fait, ça passe jamais.
Et il y a des nuisances sonores également pour les gens qui habitent tout près, même s'il y a des réglementations en France qui n'existent pas en plus partout dans le monde.
Voilà. Mais c'est vrai que la concertation, alors je prêche pour ma paroisse, mais ça permet justement d'anticiper des choses et de choisir... Ouais. De choisir mieux les lieux. Et au contraire, on est souvent sur des projets qui, au départ, ne sont pas dits. Et au contraire, impliquer les habitants, la population, les acteurs locaux, ça changerait beaucoup de choses. Moi, je voulais évoquer la biomasse. Donc la biomasse, c'est la définition, c'est l'ensemble de matières organiques pouvant devenir des sources d'énergie. Donc soit elles sont utilisées directement, donc par exemple ce qu'on appelle le bois énergie, soit elles sont utilisées après une méthanisation de matières organiques, le biogaz ou des nouvelles transformations chimiques, par exemple les biocarburants, on en entend de plus en plus parler. Et en fait, la biomasse, alors elle est considérée comme renouvelable seulement si la quantité de matière utilisée est égale ou inférieure à la quantité qui peut être régénérée. Bon, ça paraît assez logique, mais il le rajoute quand même dans la définition. Donc voilà. Et quand même, en 2021, il y avait 9,5% de la consommation mondiale d'énergie primaire qui était de la biomasse. Et moi, j'étais vachement surprise. Alors, énergie primaire, mais j'étais vachement surprise par le chiffre. Je ne pensais pas du tout que c'était autant.
On en entend un peu moins parler, en fait.
Ouais. Et en fait, pourtant, c'est une énergie qui s'est développée depuis très longtemps. Puis et puis là, il y a quand même des projets qui ressortent depuis quelques temps. Alors moi, je voulais pas rentrer dans la technique, d'abord parce que c'est pas mon métier. Et ensuite, parce qu'il y a énormément de catégories, sous-catégories. Il y a la biomasse traditionnelle, moderne. Ça peut être par combustion, ça peut être par fermentation. Enfin, il y a pas mal. En fait, ça regroupe énormément de procédés technologiques différents. Et beaucoup de débats aussi, pour pas mal de raisons différentes. Donc je suis allée regarder et alors il faut savoir d'abord que les projets de biomasse ils sont fortement soutenus par l'État, soutenus par des subventions. Il y a l'Union européenne qui pousse aussi à développer encore plus ces projets parce que dans l'optique de développer les énergies renouvelables. Et pour autant, côté assos environnemental ou habitant, parfois ça grince. Ça va dépendre des projets. C'est pas tant un rejet philosophique de fond sur les projets de biomasse, mais c'est sur vraiment certains projets. Par exemple, il y a des projets où il y a des agriculteurs qui ont un projet de méthanisation, et sauf qu'il y a des terres qui vont être utilisées pour, pour ça. Et donc, les agriculteurs disent d'un côté, de toute façon, on n'aurait pas utilisé, ça change rien sur nos récoltes. Et d'autres habitants qui disent, non, mais au contraire, on va produire beaucoup moins au niveau de la culture. Et pareil sur tout ce qui est chaufferie bois, ça se développe de plus en plus depuis quelques années. C'est entre guillemets un effet de mode parce que vraiment on en a beaucoup entendu parler. Et puis finalement, il y a eu des scandales qui sont sortis avec certains bois qui étaient qu'on allait chercher à plusieurs centaines de kilomètres, voire même en dehors de la France, pour le rapatrier et pour le mettre dans la chaufferie bois. Alors que normalement, la logique c'est quand même que ça soit du local, parce que sinon, après, ça dépend ce qu'on met derrière le terme local. Mais en tout état de cause, il y a pas mal de débats. Et puis il y a des débats aussi avec des craintes des gens qui peuvent être justifiées ou injustifiées, mais notamment des craintes de pollution, puisque c'est des procédés qui sont quand même importants. C'est des procédés, comme je vous le disais, il y a de la fermentation ou de la combustion, il y a des procédés parfois chimiques, et donc quand il y a les rivières à proximité, les terres, des équipements publics tels que des écoles, il y a des gens qui se mobilisent et donc c'est aussi un procédé qui pose des questions aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler.
Et quand on aura peut-être plus de recul aussi, on aura plus de réponses aux questions que tout le monde se pose sur les questions.
Ouais, puis c'est vrai que c'est des investissements qui sont forts. On parlera tout à l'heure du solaire. C'est des équipements de plusieurs millions d'euros de faire ce type de projet. Et forcément, ça a des impacts.
Alors, avant de passer à la suite, je vous propose un petit jeu. Il va s'agir d'un texte à trous que je vous propose de compléter. C'est un discours de Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total Énergie, lors de l'Assemblée générale du groupe en 2021. Allez, c'est parti. Donc, cette année marque notre volonté collective d'inventer un nouveau Total, une compagnie multi-énergie, acteur majeur de la...
République.
De la transition écologique.
Bien sûr.
Notre compagnie s'engage résolument dans la transition énergétique et prend ses responsabilités pour être dans les premiers acteurs mondiaux en la matière, en combinant adaptation, anticipation et
invention, imagination,
rentabilité.
Ah ouais, non, là on n'était pas.
Imagination pour être les premiers des acteurs de la transition écologique, non?
C'est vrai, c'est vrai.
Sachez d'ailleurs que Total a battu un nouveau record de profit en 2022 avec 19,5 milliards d'euros. Donc ça va en termes de rentabilité, on est pas mal. Mais il n'y a que 4,7% qui viennent de la part du renouvelable là-dedans. Ensuite, il nous parle des performances des femmes et des hommes qui constituent le groupe, car l'atteinte des objectifs de réduction de nos propres émissions joue sur les rémunérations de l'ensemble des...
actionnaires.
Presque dirigeant. J'ai cru que vous alliez dire collaborateur. Mais
non.
D'ailleurs, la rémunération de ce cher Patrick Pouyanné, elle a augmenté de 23% en 2022. On est à 7,33 millions.
Mais tu te rends pas compte de l'augmentation du coût de la vie aussi. T'as pas conscience.
Quand même.
Allez, on termine avec, permettez-moi de vous rappeler nos quatre principes d'action. La sécurité, le respect de l'autre, la tolérance zéro contre la corruption. Et là...
L'amour.
La transparence.
Oh,
alors qu'il y a quand même 3 ONG qui m'ont assigné Total Energy en justice pour pratiques commerciales trompeuses, puisqu'ils se présentent comme un acteur majeur de la transition énergétique, ce qui n'est pas vraiment vrai dans les chiffres. Allez, on a bien rigolé grâce à Total. On va passer aux panneaux solaires, je vais vous dire 2 mots là-dessus. Donc on en voit fleurir un peu partout, hein, sur les toits, sur les parkings. Sachez qu'il y a 2 types de panneaux solaires, les thermiques qui produisent de la chaleur et les photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Donc, outre les panneaux, dans ce cas-là, il faut installer des batteries, un onduleur. Ensuite, on peut revendre éventuellement l'électricité à EDF. Alors, on va examiner 2 points, c'est leur fabrication et le recyclage. Alors, la plupart des panneaux, ils viennent de Chine, même s'il y a des fabricants français désormais. Donc, la très grande majorité des panneaux solaires sont constitués de silicium cristallin, qui est un élément qui provient du sable et du quartz, qui est 100% recyclable. Et ils contiennent aussi souvent de l'argent, de l'aluminium, du verre et du cuivre, et selon les modèles, du plastique. Donc, tout ça, c'est 90% du marché. Mais il y a d'autres technologies qui contiennent des métaux rares, controversés, donc, et des terres rares même. Carrément. Ça pose donc évidemment la question de l'extraction de ces matériaux, qui n'est pas du tout neutre, hein, d'un point de vue environnemental et social. En Chine, en plus des bas salaires et des conditions de travail extrêmes, il y a eu des scandales, hein, sur le rejet massif dans l'atmosphère de poudre de silicium et des pollutions causées par les opérations de raffinage de ce même silicium en rejetant des substances chimiques dans l'air et dans l'eau. Des phénomènes en voie d'amélioration, heureusement, grâce aux innovations dans ces techniques. Lorsqu'on fabrique un module solaire, il faut faire fondre le verre et le silicium. Et ça demande énormément d'énergie. Après sa fabrication, le panneau doit être évidemment acheminé vers son lieu de destination. Donc c'est encore quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son empreinte carbone. Et qu'en est-il du recyclage ? Donc la durée de vie d'un panneau solaire, c'est entre 20 et 35 ans. Ensuite, il faut le démonter. Mais sachez que les panneaux photovoltaïques sont recyclables entre 95 et 99% dans l'ensemble. Et il y a des filières de recyclables qui sont opérationnelles en France et en Europe. En 2014, les fabricants ont même l'obligation légale de reprendre gratuitement les équipements et de participer financièrement à la collecte et au traitement des déchets. Donc c'est des efforts qui limitent en plus le besoin en matière première. Donc pour conclure, on peut considérer que même si c'est pas parfait, les panneaux solaires, en fait, ils sont quand même bien plus vertueux que les énergies fossiles et que des progrès sont faits aussi dans le modèle pour réduire l'impact. Et aujourd'hui, on estime qu'en fait, il faut 2 ans pour que leur dette énergétique soit totalement remboursée. Encore faut-il bien les choisir également.
Et puis, il y a l'État maintenant qui incite à travers la réglementation à l'utilisation des panneaux solaires. Par exemple, quand on crée un parking ou quand on rénove un parking, maintenant, on est obligé de mettre ce qu'on appelle des ombrières, donc des panneaux solaires au-dessus des voitures. Et justement, ça produit de l'énergie. Par exemple, pour un parking de supermarché, typiquement.
Bah oui, c'est pas mal.
Ouais, carrément. Et justement, j'ai discuté avec un chercheur spécialisé dans les énergies renouvelables l'autre jour. Et lui, il était déjà, il trouvait que le terme renouvelable posait souci parce que ça laissait penser que c'était très vertueux. Alors, il disait évidemment par rapport aux non renouvelables, bien sûr, mais qu'en fait, il y avait des défauts et des gros défauts dans toutes les énergies renouvelables, et que même s'il fallait tendre là-dessus, il fallait quand même qu'on garde un esprit critique. Et lui, surtout, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait absolument diversifier en fait les types d'énergies renouvelables et qu'il fallait qu'on arrête d'aller vers, typiquement. Ce dont je parlais tout à l'heure, des effets de mode, et qu'il fallait choisir les bonnes énergies renouvelables en fonction du territoire, en fonction des acteurs en présence, en fonction des ressources qu'il y a, et que du coup c'était ça le plus important, quoi. Donc voilà.
Ouais. Justement, renouvelable, une très ancienne énergie renouvelable, c'est l'hydroélectricité. En France, ça représente 13% de la production renouvelable. D'ailleurs, la France est le 2e pays européen de production d'hydroélectricité. Donc c'est vraiment une grosse source, on la considère vraiment comme l'énergie renouvelable de base. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment écologique ? Et là-dessus, je vais partager la position de European River Network, donc qui parle justement de l'hydroélectricité. et qui ne dit pas clairement ben, il ne faut plus du tout en faire, hein, mais qui met quand même en garde contre des dérives sur le fait de vouloir absolument faire de l'énergie verte, dite verte, avec de l'hydraulique, en particulier avec des tout petits, des petites installations et des petits barrages. Il y a beaucoup de financements publics qui permettent de faire ça, et finalement, on commence à mettre dans des endroits où on se dit, tiens, là, on va mettre un petit peu d'hydroélectricité, encore un petit peu là, un petit peu là, et on ne prend pas en compte tous les impacts sur l'environnement. Ces impacts, bah, les plus connus, c'est sur le paysage, c'est quand on fait un barrage, un gros barrage, et puis on inonde les vallées.
Oui.
Il y a une très belle chanson de Salvador là-dessus, qui s'appelle « Les voleurs d'eau ». Mais c'est aussi des berges artificialisées. On peut parler du Rhône qui, depuis une fois qu'il a réussi à sortir du glacier, en fait, il est canalisé pratiquement sur tout son cours. Il reste à peu près 25 km libres du Rhône. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a un projet sur ces 25 derniers kilomètres qui ne fait pas trop envie. C'est aussi, c'est aussi intéressant. Après, ces grands barrages, ça crée aussi du tourisme. Donc, il y a la possibilité, on a des lacs qui n'existaient pas encore avant. Mais ça entrave la liberté de circulation des poissons en particulier. Avec quelquefois, il y a des passes à poissons, mais souvent, il n'y a pas de passes à poissons. Ça impacte aussi la libre circulation des flux, des tourbillons, des milieux de vie qui font que certains animaux ont besoin de vivre dans des milieux aquatiques qui bougent plus vite ou qui sont plus frais. Donc tout ça, c'est des impacts qui sont aussi importants. C'est le transport des sédiments, par exemple, qui va aussi compter. Et par exemple, à la confluence Ain-Rhône, justement, après les 25 derniers kilomètres libres, sauvages, et encore sauvages, entre guillemets, du Rhône, là où le Rhône se jette, là où l'Ain se jette dans le Rhône, c'est ce qu'on appelle le poumon du Rhône. C'est là où il respire, parce qu'il y a des sédiments qui peuvent bouger, il y a des transferts qui se font. On a un projet à cet endroit-là qui s'appelle le projet Rhônergia, qui est de construire une petite centrale hydraulique, un petit barrage, encore un. Il y en a déjà à peu près, je crois, 19 sur le Rhône, qui est surexploité. Et parce qu'il reste un petit peu de possibilités de création d'énergie décarbonée. Et c'est l'État qui demande à la CNR de créer ce projet-là. Alors qu'en même temps, l'État, par exemple, sur le fleuve Sélune, a demandé, en vertu de la directive européenne sur l'eau qui protège les milieux aquatiques, de démanteler deux barrages. Le fleuve Sélune, il se jette dans la mer au niveau du Mont Saint-Michel. Et ces deux barrages, il a été établi que ça empêchait les saumons de pouvoir aller se reproduire, de repartir dans les rivières, de se reproduire librement. 50 millions quand même qui ont été mis pour démanteler des barrages. Pendant ce temps, on propose d'aller encore dépenser je crois que c'est quelque chose comme... j'ai perdu mon chiffre, mais c'est pas grave. Beaucoup d'argent pour ce projet Rhônergia, pour pouvoir créer un petit peu d'hydroélectricité avec des impacts sur l'environnement qui sont extrêmement importants. Et ça, donc, à la fois, il y a un collectif citoyen, donc je voulais en parler, qui propose de signer une pétition contre ce projet qui est en cours en ce moment. Il y a déjà 8000 signatures, donc vous pouvez aller sur le site stopbarrage.fr et aller signer la pétition. Et peut-être pour finir ça, je parle quand même aussi donc des recommandations de European River Networks, qui dit tout de même, attention, on n'est pas complètement contre les barrages, c'est quand même aussi intéressant de pouvoir travailler et faire de l'électricité avec de l'eau quand elle coule. Il y a déjà qui nous dit qu'il y a des tas de choses, on peut mettre à jour les centrales existantes et puis faire vraiment améliorer leur production. Il y a le système des STEP qui permet de faire remonter l'eau d'utiliser de l'énergie, par exemple, solaire, qui est là pendant le jour pour faire remonter de l'eau et puis la faire repasser dans les barrages. Il y a aussi des nouveaux potentiels hydroélectriques alternatifs avec l'eau potable, les réseaux d'eau potable ou d'eau usée qui peuvent être mis en œuvre. Donc, en tout cas, il y a des possibilités. Et puis surtout, il y a le plus important, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'on peut aller produire autant d'énergie renouvelable qu'on veut. Si on continue à chaque fois à en utiliser plus, c'est le fameux effet rebond. Chaque fois, on arrive à produire plus, mieux, de manière plus efficace. Et en fait, avec ça, on continue à consommer plus. Donc on peut aller chercher de l'information, par exemple, sur le site Negawatt, qui depuis pas mal d'années se positionne pour pouvoir nous dire il faut des énergies renouvelables, oui, mais en même temps, il faut faire le même effort pour avoir consommé au moins deux fois moins d'énergie que ce qu'on fait maintenant.
C'est ça, on aura encore beaucoup de choses à dire, mais il faut malheureusement qu'on s'arrête. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Merci.
Merci.
Court-circuit.
Dans la prise de conscience écologique.